oui, bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 27 janvier. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, pour les salaires et l'emploi, les syndicats battent le fer du pouvoir d'achat. Journée de mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui. Les autres titres, Anaïs.
OVNI politique dans cette campagne. Le scrutin de la primaire populaire de gauche débute aujourd'hui. Les remous du scandale Orpea, trois plaintes non instruites jusque-là pourraient bien refaire surface. Dans ce journal aussi, mobilisation pour l'IVG en Pologne après un nouveau décès d'une femme enceinte et les handballeurs français dans le dernier quart de l'Euro après un match épique.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
C'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis longtemps. Les jeunes amants racontent l'histoire d'amour impossible d'une femme de 70 ans et d'un homme de 45 ans. La femme c'est Fanny Ardant, l'homme c'est Melville Poupeau. Ils sont tous les deux avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20 Léa pour le grand entretien de la matinale avec donc aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et vous attend.
France Inter. On ressort les ballons, les sonos, meeting, concert ce midi à Paris, place de la Bastille pour lancer la journée de mobilisation sur les salaires et l'emploi. CGT, FO, FSU, Solidaire, les lycéens aussi dans la rue. Alors que le pouvoir d'achat sur fond d'inflation à 2,8% s'invite dans la campagne, les syndicats se veulent l'écho des attentes des Français. Écoutez Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière.
Il ne faut pas oublier que le salaire médian, c'est 1880 euros net par mois. Ça veut dire que la moitié de la population salariée est en dessous. Mais le salaire, c'est aussi le moyen de financement de la solidarité. C'est la sécurité sociale, l'assurance chômage, les retraites. Et puis enfin, je vais vous dire, tout ce qu'on gagne sur les salaires, c'est autant de moins qui s'évapore dans les versements de dividendes aux actionnaires qui atteignent à nouveau des niveaux records. On nous dit qu'en 2022, les dividendes versés aux actionnaires en Europe augmenteraient de l'ordre de 8%. Chercher les endroits où on arrive à obtenir 8% d'augmentation de salaire, c'est une question aussi de justice au profit des salaires et non pas des marchés financiers.
Yves Verrier de FO avec Fabien Cazot. Appel à la grève donc dans les transports. Perturbations à prévoir sur les RER en Ile-de-France. À l'école, 20% de grévistes attendus. Dans les 170 rassemblements organisés aujourd'hui, on va demander une augmentation du point d'indice des fonctionnaires, du SMIC et de tous les salaires, histoire de mettre la pression en pleine période de négociation annuelle dans les entreprises, dont certaines font le choix, Thomas Giraudeau, de privilégier les primes moins pérenne.
En région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque Populaire augmente d'un peu plus d'1% les salaires cette année, moins que l'inflation, insuffisant pour Delphine Blasnac, déléguée CFDT, même si la direction verse une prime de 500 euros aux salariés qui gagnent jusqu'à deux fois le SMIC.
Une hausse générale des salaires, bien évidemment que c'est mieux puisque c'est pérenne. Donc on conteste qu'aujourd'hui la banque ne redistribue pas la hauteur des résultats de Banque Populaire et de la bonne implication des salariés.
Le géant automobile Stellantis valorise lui depuis plusieurs années les primes sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement et la participation qui s'annoncent élevés cette année avec le rebond du groupe. Christine Virasamy est déléguée centrale CFDT chez Stellantis.
Le versement de la participation intéressement est fortement attendu par les salariés, mais ça ne doit pas occulter l'urgence nécessité de revaloriser les salaires pour absorber l'inflation.
Mais dans les secteurs en difficulté ou à l'avenir incertain, comme l'automobile ou les banques, ce n'est pas si simple d'augmenter massivement les salaires, défend Benoît Serre de l'Association nationale des DRH.
La situation a l'air d'aller mieux, mais en même temps, vous avez beaucoup d'entreprises, malheureusement, et des PME quelquefois, qui sont sorties essorées de cette crise. Donc ce serait dangereux ou déséquilibrant de devoir alourdir trop fortement un certain nombre de charges.
Benoît Serre attend notamment de voir si tous les hôtels et restaurants vont pouvoir suivre l'accord adopté dans leur branche le mois dernier. Il prévoit une hausse moyenne de 16% des salaires.
Thomas Giraudeau, chez EDF, après la forte mobilisation d'hier, l'intersyndicale se réunit ce matin pour décider de la suite et maintenir la pression sur le gouvernement. Et puis, eux se battent aussi pour leur outil de travail. Les 320 salariés de la fonderie du Poitou dans la Vienne reprennent un peu leur souffle. Renault s'engage à soutenir la trésorerie de l'usine et son volume de commandes pour lui permettre de trouver un repreneur.
Et c'est dans ce contexte social, Anaïs, il est 7h05, que s'ouvre ce matin le vote de la primaire populaire.
Dont plusieurs candidats, malgré eux, Jadot, Mélenchon, Hidalgo, seront d'ailleurs dans les cortèges aujourd'hui. Près d'un demi-million de personnes se sont inscrites. Le scrutin en ligne débute à 10h. Un seul tour au jugement majoritaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une invention française qui permet de mieux refléter l'opinion des électeurs, Antoine Gignot.
450 pages. Voilà l'épaisseur du document publié par le MIT, la très prestigieuse université du Massachusetts aux États-Unis, détaille les travaux des inventeurs français Michel Balinski et Rida Laraki. L'idée, explique ce directeur de recherche du CNRS, c'est d'attribuer une mention à chaque candidat.
Et chaque électeur va dire s'il pense que ce candidat, il est excellent, il est très bien, il est bien. Maintenant, c'est un deuxième candidat, il est là. On peut faire le même exercice pour ce deuxième candidat, ce troisième candidat. Et celui qui a la meilleure mention majoritaire va gagner l'élection.
Autrement dit, le système oblige les candidats à faire une campagne qui touche l'ensemble de l'électorat en supprimant les calculs stratégiques liés au scrutin à deux tours, explique Chloé Ridel, présidente de l'association Mieux Voter.
Je crois que les électeurs en ont marre de voter utile, de voter contre. Une des causes de l'abstention, c'est cette incapacité du mode de scrutin à nous permettre de nous exprimer, et plus grave, à faire gagner des gens qui auraient été, ne sont pas les candidats les plus appréciés. Et là, le fait que le jugement majoritaire soit utilisé par la primaire populaire, c'est un signe que ces idées progressent.
Déjà utilisé pour déterminer le budget participatif à la mairie de Paris, le système gagne aussi du terrain à l'Assemblée nationale. La mission d'information sur la lutte contre l'abstention préconise de permettre aux élus locaux de l'expérimenter.
Et ce mode de scrutin, les organisateurs de la primaire et les candidats, tout est à retrouver en détail sur notre site internet franceinter.fr. Clôture du vote dimanche à 17h. Entre campagne et tribunal, Éric Zemmour à nouveau devant la justice cet après-midi pour avoir utilisé dans son clip de campagne des extraits de films sans demander ni payer les droits d'auteur. La riposte d'Orpea, alors que le titre continue à s'effondrer en bourse, le leader des maisons de retraite a mandaté hier soir deux cabinets pour une évaluation indépendante sur les pratiques dénoncées dans le livre enquête publié hier, Les Fossoyeurs chez Fayard. Le patron d'Orpea est convoqué chez la ministre chargée des personnes âgées et des plaintes vont être déposées la semaine prochaine. Alors bien sûr, on ne découvre pas ces EHPAD où la prise en charge des patients est défaillante. Les familles n'ont pas attendu ce livre pour engager des procédures. Mais Emmanuel Leclerc, ces plaintes ont du mal à se retrouver sur le dessus de la pile.
Cela fait plus de 2 ans que l'avocat Fabien Arakelian multiplie les dépôts de plaintes pour des dizaines de familles scandalisées par le traitement plus que dégradant de leurs parents ou grands-parents en fin de vie dans certains établissements.
Pour une grande partie, nous avons réussi à obtenir des ouvertures d'enquêtes préliminaires, mais également une dizaine d'ouvertures d'informations judiciaires. Mais le constat ensuite, c'est que tout cela dort terriblement pour la majeure partie de ces dossiers.
Et parmi ces plaintes, 3 concernent le groupe Orpea, dont une pour un EHPAD à Neuilly-sur-Seine.
C'est un cas qui vient refléter tout ce qui est dénoncé dans ce livre, mais encore pire, puisque j'ai sous les yeux dans cet établissement le bulletin d'intervention des pompiers qui viennent dire que la personne qui est décédée dans ce dossier avait été retrouvée à 9h45 inconsciente dans son lit, non vue depuis hier soir.
La plainte en question a été déposée il y a plus d'un an et confiée au commissariat de Neuilly-sur-Seine.
Qui est totalement sous l'eau, mais en réalité ça devrait être des services spécialisés qui devraient être saisis de ces dossiers. J'entends que ces dossiers ne sont pas prioritaires, mais aller expliquer à ces familles qui ont perdu des proches dans des conditions qui sont totalement intolérables et que leur dossier n'est pas prioritaire, enfin personne ne peut l'entendre, personne.
Le parquet de Nanterre, selon nos informations, attend donc toujours un retour du commissariat de Neuilly-sur-Seine avant une éventuelle suite judiciaire.
Ils avaient fabriqué plus de 60 000 faux passes sanitaires, 13 suspects interpellés en région parisienne et lyonnaise. Certains d'entre eux, des pirates informatiques, avaient usurpé l'identité de 35 médecins pour générer ces certificats. Côté épidémie, le nombre de patients en soins intensifs est en léger reflux. Le Covid a causé la mort de près de 130 000 personnes en France.
Il est 7h09, la loi anti-avortement en Pologne aurait-elle, Anaïs, fait une nouvelle victime?
Agnieszka, 37 ans, laisse 3 orphelins. La justice a ouvert une enquête après son décès. Enceinte de jumeaux, elle avait dû porter un des fœtus décédés pendant 7 jours, les médecins refusant d'intervenir. Conséquence, dit sa famille, de l'interdiction de l'avortement votée il y a 1 an. Loi dévastatrice selon les ONG qui se sont rassemblées hier soir à Varsovie en mémoire d'Agnieszka. Sarah Bakayloglu.
Tour à tour, des Polonaises déposent des bougies devant les grilles du tribunal constitutionnel, là où il y a 1 an, la loi sur l'avortement devenait encore plus restrictive. Sofia, 24 ans, est en colère.
Il y a un slogan qui accompagne nos manifestations qui est « pas une de plus ». Mais je me demande en fait combien d'autres femmes y aura-t-il ? Car Agnieszka n'est ni la première ni la dernière à qui cela arrivera et ça me terrifie.
Car si théoriquement l'avortement en cas de danger pour la vie et la santé de la femme reste autorisé, dans les faits cela est compliqué, dénoncent les ONG. De nombreux médecins ayant peur, de quoi effrayer Magda, 32 ans.
Me and a lot of my friends Mes amis et moi avons été influencés par cette loi cruelle, car nous sommes désormais vraiment, vraiment sûrs que nous ne voulons pas devenir mères dans ce pays, car cela est trop dangereux.
Depuis un an, le recours aux associations aidant les femmes à avorter en Pologne ou à l'étranger a explosé. L'ONG Avortement sans frontières a par exemple reçu 5 fois plus d'appels que l'an dernier. Sarah Bakaloglou, Varsovie, France Inter.
8 heures d'entretien à Paris hier entre délégations russes et ukrainiennes. Réunion difficile, mais un bon signal des Russes, disent les diplomates qui se donnent un nouveau rendez-vous dans 2 semaines à Berlin. Nous serons à la frontière russo-ukrainienne dans le journal de 7h30. La Lune, poubelle des débris spatiaux, un morceau de fusée SpaceX qui avait lancé un satellite en 2015 et qui depuis était en errance dans le cosmos, va finalement s'écraser sur la Lune le 4 mars. Les mathématiciens ont recalculé son orbite. Il créera un nouveau cratère sur la surface de la Lune. Renversant et au bout du suspense, les handballeurs français dominés mais vainqueurs et qualifiés pour les demi-finales de l'Euro. Il fallait un nul ou battre le Danemark. Menés de 5 buts encore à 12 minutes de la fin, ils ont renversé la vapeur, 30-29. Alors, comment on se sent après un tel match, Nicolas Karabatic?
Non, pas des miraculés. Sensation d'être des guerriers, des mecs qui ont rien lâché, qui se sont battus jusqu'au bout, qui ont tout donné. Ça, c'est vraiment jouissif d'être dans une équipe comme ça et beaucoup de plaisir de réussir à une remontée, surtout face à une équipe de Danemark qui était en chaleur avec tout qui leur réussissait en première mi-temps. Donc voilà, beaucoup de fierté d'avoir évolué dans ce match-là. C'est un vrai match référence dont on se souviendra longtemps.
Karabatic au micro de Jean-Pierre Blimeau. La France affrontera la Suède demain à 20h30 après Danemark-Espagne. Enfin, les amateurs de BD rongent leurs freins. Le festival d'Angoulême qui devait débuter aujourd'hui commencera en mars, Covid oblige. Pour nous faire patienter, le musée de la BD nous ravit les yeux et les oreilles avec cette expo sur l'histoire commune entre BD et cinéma. Alexis de Meyer.
Des planches originales de Bécassine, Popeye et Mickey côtoient les premières apparitions animées de Félix le Chat et de Betty Boop. Des personnages malins, drôles, séduisants qui symbolisent la culture populaire du XXe siècle, selon Anne-Hélène Hogg, la directrice du musée de la BD.
La bande dessinée a nourri au départ le dessin animé. Ça vient de la presse et ça vient de l'espace collectif festif. Les fêtes foraines, les kiosques à journaux dans les rues. C'est tout ça qui fait que la bande dessinée, comme le film d'animation, était dès le départ, je dirais, des divertissements pour les pauvres.
Dans les années 30, des comics comme Superman ou Captain America captivent une foule de lecteurs. Avant d'être décliné en version animée, BD et dessins animés n'ont depuis jamais cessé de se développer en parallèle, oscillant entre complicité et concurrence. Pascal Vimnet est le commissaire de l'expo.
Il y a en effet un dialogue dès le départ, ne serait-ce que parce que les premiers réalisateurs de dessins animés sont des dessinateurs, mais aussi parce qu'il y a une sorte de concurrence qui se met en place entre les deux expressions artistiques qui aboutit d'ailleurs par moments à des fâcheries.
Mais aussi à des réconciliation, le manga par exemple doit son immense popularité actuelle à la diffusion mondialisée dans les années 80 des dessins animés japonais.
De Popeye à Persepolis jusqu'au 6 novembre à Angoulême.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom c'est dans 3 minutes. Aujourd'hui, Yves Saint-Laurent au musée.